Gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Toi, le Créateur de toutes choses, le Créateur de cette journée, le Créateur de tout moment. Ce moment est spécial parce que nous nous réunissons, nous, tes enfants, devant toi, pour t'écouter, pour te contempler. Alors, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent, nous avons tant à recevoir de toi, encore et encore. Tu te ne lasses jamais de donner. Alors aujourd'hui, dispense encore tes grâces sur nous. Merci de nous permettre de nous approcher de toi. Merci de nous permettre de nous tourner vers toi. Tu as fait de nous tes enfants, la plus belle des grâces. Gloire te soit rendue. Notre Père, béni sois-tu. Amen. Bonjour. Nous continuons notre série de prédications dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9 aujourd'hui, intitulé Le jardin de nos pensées. Une question, je connais sûrement la réponse. Qui parmi nous n'a jamais rêvé de côtoyer le Seigneur, d'être un des douze, vivre avec lui, de marcher avec lui, de le voir agir, de l'entendre enseigner? Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais tellement de moments où les disciples se sont émerveillés devant le Maître. Moi, je vous avoue, j'ai un style un peu casanier, marcher des heures entières sous le soleil d'Israël, je ne sais pas si j'aurais pu. Mais avec le Seigneur, on peut tout supporter. Je pense que ce qui m'aurait le plus plu, ça aurait été de m'asseoir et d'écouter le Seigneur me raconter des histoires. Alors, si vous le voulez bien, on va juste essayer, j'allais dire de revivre, pas de revivre ce moment-là, d'imiter un moment comme celui-ci. Les moments où le Seigneur enseignait sont et resteront uniques dans l'histoire. Essayez juste de vous mettre dans l'ambiance. Fermez les yeux pour ceux qui veulent, juste un instant. Imaginez-vous assis à l'ombre d'un olivier et Jésus commence à parler. Il raconte une parabole. Il raconte une histoire qui parle de nous, une histoire qui parle de nos pensées. Elle s'intitulerait La parabole du jardinier distrait. Je lis. C'est pas inspiré, hein, c'est juste inventé. Le royaume de Dieu ressemble à un homme qui avait un petit jardin derrière sa maison. Il disait souvent, un jour, je planterai de belles choses ici. Mais chaque matin, il ouvrait la porte, regardait le jardin, puis repartait sans rien semer. Pendant ce temps, le vent apportait des graines qu'il n'avait jamais choisies, des ronces, des orties et des plantes qui piquaient les pieds de ses enfants. Un jour, son voisin lui dit, Ami, ton jardin n'est pas vide, il pousse toujours quelque chose. La question n'est pas si tu sèmes, mais ce que tu sèmes. Alors, l'homme comprit. Il prit une bêche, arracha les ronces et planta des graines bonnes et précieuses. Et son jardin devint un lieu de paix où ses enfants jouaient sans crainte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà la parabole. Une histoire inventée par moi, comme aimait en raconter le Seigneur. On se croirait presque sous l'olivier. Presque. Il manque la poussière, les disciples qui se chamaillent derrière. Que ce matin, le Seigneur ouvre nos oreilles pour entendre. Parce que nos pensées sont un jardin, et ce jardin n'est jamais neutre, jamais vide, jamais en jachère. Si nous ne choisissons pas ce qui entre, d'autres le feront pour nous. Le vent le fera, comme dans la parabole, le monde le fera, nos peurs le feront, nos habitudes le feront. Et Paul, dans le passage que nous allons voir, vient comme ce voisin. Il ouvre la porte de notre jardin intérieur. Il regarde ce qui pousse et nous dit, Frères et sœurs, prenez en compte ce qui est bon. Choisissez vos graines. Sélectionnez ce que vous laissez entrer et pratiquez ce que vous avez appris. Ce voisin n'est pas un adepte du positivisme. Paul n'est pas en train de nous dire ayez des pensées positives. Essayez d'être optimiste. Non. Il nous dit prenez en compte ce qui est conforme au Christ et plantez-le dans votre vie. Et ce qui est frappant, c'est que Paul utilise, dans le passage que nous allons voir, un vocabulaire qu'il n'utilise presque jamais ailleurs. Un vocabulaire qui ressemble au moralisme gréco-romain, mais aussi à la sagesse juive, à Proverbe, à Jacques. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que les Philippiens vivent dans un monde chargé, chargé d'idées, chargé de valeurs. Un monde qui propose ses propres graines. Certaines mauvaises, d'autres bonnes, et beaucoup ambiguës. Et Paul leur dit, vous êtes citoyens du ciel. On avait vu ça au troisième chapitre. Mais vous vivez ici. Alors ne laissez pas le vent décider pour vous. Prenez en compte ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment noble, vraiment juste, vraiment pur, vraiment digne d'être aimé, et ce qui est vraiment digne de louange. Et plantez cela, pratiquez cela, et répétez cela encore et encore. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà le cœur du texte que nous allons voir. Voilà le cœur de l'exhortation de notre voisin bienveillant. Voilà tout simplement le cœur de la vie chrétienne. En aucun cas, c'est une fuite du monde. Ce n'est pas un rejet de tout ce qui vient de l'extérieur non plus, mais c'est un discernement, un tri, un choix, un jardinage spirituel. Et cette parabole, que j'ai inventée, je répète, va nous accompagner tout au long de la prédication. Parce que Paul nous parle exactement de cela. Le jardin de nos pensées, le choix des graines et la présence du Dieu de paix. Alors ce matin, on va marcher un petit peu avec Paul dans ce jardin intérieur. Nous allons regarder ce qui pousse, nous allons écouter ce qu'il nous dit et nous allons apprendre à jardiner avec Christ. Voici le plan. En un, le jardin de nos pensées, un lieu jamais neutre. Paul commence par un, on va le voir, un enfin, frères et sœurs. C'est la dernière exhortation, le dernier coup de bêche dans cet épître. Il nous rappelle que nos pensées façonnent nos vies. Comme dit la sagesse, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme le jardinier distrait, nous laissons souvent pousser ce que le vent apporte. Nous verrons pourquoi ce jardin est si important et pourquoi Paul commence par tout ce qui est vrai. Puis en Dieu, en deux, le tri des graines. Discerner ce qui est conforme au Christ. Paul utilise 6 adjectifs et 2 noms. Un vocabulaire, comme je vous l'ai dit, inhabituel pour lui. Un vocabulaire qu'il a emprunté au monde, mais qu'il a filtré par l'Évangile. En 3, le geste de planter, pratiquer ce que nous avons appris. Le verset 9, on le verra, est la mise en mouvement. Paul dit ce que vous avez appris, pratiquer. Le jardin ne change pas par admiration seul, il change par action. Et nous verrons comment le voisin nous montre son propre jardin et comment il nous invite à jardiner comme lui. Et enfin en 4, la promesse finale, le Dieu de paix dans le jardin. Pas seulement la paix de Dieu, le Dieu de paix. Le jardin, dans la parabole, devient un lieu où les enfants jouent sans crainte, un lieu de paix, un lieu où Dieu marche. Alors lisons le passage, ouvrons la porte de notre jardin intérieur, regardons ce qui pousse, écoutons Paul et laissons Jésus nous apprendre à choisir nos graines, à arracher les ronces, à planter ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et admirable, à pratiquer ce que nous avons appris et à accueillir la présence du Dieu de paix. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc Paul commence par un mot qui ressemble presque à un soupir. Enfin, frères et sœurs. Les sœurs. Ce n'est pas un enfin de fin de lettre, ce n'est pas un enfin pour conclure, comme on mettrait à la fin d'un mail, c'est un enfin qui rassemble tout ce qu'il vient de dire. On a déjà vu le contexte du chapitre 4. C'est un enfin qui nous dit, écoutez bien, ce que je vais vous dire maintenant est essentiel. Paul ne parle pas de nos émotions, il ne parle pas de nos circonstances, il ne commence pas non plus par nos comportements, il va directement à la racine, là où tout pousse. Le jardin de nos pensées. Dans la parabole, le jardinier distrait ne plante rien, mais quelque chose pousse quand même, toujours, parce que la nature ne laisse jamais un terrain vide, et notre esprit non plus. Les mauvaises pensées, il y a cette image, c'est comme les chats du voisin. Il rentre dans notre jardin, on ne l'a jamais invité, et pourtant il se sent à sa place. Si on ne choisit pas ce qui entre dans notre jardin, d'autres le feront pour nous. Le vent, le monde, nos peurs, nos blessures, nos habitudes, nos écrans, nos souvenirs. Vous savez mieux que moi ce qui plante le plus dans vos vies. Et Paul le sait. Il sait que les Philippiens vivent au milieu d'un paysage complètement chargé, un air rempli de pensées qui volent comme le pollen, des graines de toutes sortes, des ronces déguisées, des fleurs trompeuses, et parfois des vraies bonnes semences, mais il faut apprendre à les reconnaître. Alors, Paul leur dit, enfin, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, prenez-le en compte. Parce que ce que Paul dit, c'est exactement ce que dit le jardinier dans la parabole. Ton jardin n'est pas vide. La question n'est pas si tu sèmes, mais ce que tu sèmes. Paul commence par la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la première graine, la graine mère, la graine qui détermine toutes les autres. Psaume 119. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et surtout, Jésus est le dernier mot de Dieu. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Dans la Bible, la vérité, c'est jamais une idée abstraite. La vérité, c'est ce qui est conforme à Dieu, conforme à son caractère, conforme à l'évangile, conforme à Christ. Paul dit en quelque sorte, avant de planter quoi que ce soit, vérifiez la graine. Regardez si elle vient du Christ. Regardez si elle porte la marque de la croix. Parce que beaucoup de pensées ont l'air vraies, mais ne le sont pas. Par exemple, je suis seul dans ce que je traverse. Dans la souffrance, ça semble très vrai. Mais c'est faux. La vérité, je suis avec vous tous les jours. Beaucoup d'idées semblent raisonnables aussi, mais ne sont pas conformes à Dieu. Par exemple, je dois d'abord arranger ma vie avant de m'approcher de Dieu. Raisonnable, mais contraire à la grâce. La vérité, Dieu nous accueille avant que nous soyons arrangés. Beaucoup de raisonnements aussi paraissent sages, mais ils ne mènent pas à la vie. L'important, c'est d'être heureux. Ça semble sage, mais ça mène à l'égoïsme. La vérité, l'important, c'est d'être saint. La joie vient ensuite. Et Paul commence par là, la vérité, comme fondation de notre jardin intérieur. Dans la parabole, le jardinier distrait laisse entrer tout ce que le vent apporte. Il ne filtre rien. Résultat, des ronces, des orties. Ne soyons pas ce jardinier-là. Ne laissons pas le vent décider pour nous. Ne laissons pas nos pensées devenir un terrain vague où tout peut pousser. Commençons par Christ. Commençons par celui qui est la vérité incarnée. Commençons par la personne qui donne un sens à toutes les autres graines. Parce que ce que nous pensons devient ce que nous croyons. Et ce que nous croyons devient ce que nous faisons. Et ce que nous faisons devient ce que nous sommes. Le jardin de nos pensées façonne le jardin de nos vies. Et Paul le sait. C'est pour ça qu'il commence par vrai. Parce que si la graine n'est pas vraie, tout le reste est faussé. Moi, ma femme peut en témoigner, je n'ai pas du tout la main verte. Je suis de ceux qui vont planter une graine en pensant que c'est une plante, et je me rends compte 2 mois après que c'était une fleur. On peut planter avec des bonnes intentions, mais avec une mauvaise graine. Paul dit, ne faites pas ça dans votre vie. Ne faites pas ça dans votre esprit. Ne laissez pas entrer des idées qui vous éloigneront du Christ. Ne laissez pas pousser des mensonges qui étoufferont votre joie. Parce que les mensonges sont comme les ronces. Elles poussent vite, elles prennent de la place, elles étouffent le reste. Et ça finit toujours par piquer. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on les a laissés entrer. Comme le jardinier distrait, on ouvre la porte le matin, on regarde et on repart. Sans rien semer, sans rien arracher, sans rien choisir. Et le vent fait le reste. Et Paul nous dit, ne laissez pas le vent faire votre jardinage. Prenez en compte ce qui est vrai. Choisissez vos graines. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir la porte de notre jardin intérieur, de regarder ce qui pousse et de se demander, qu'est-ce que j'ai laissé entrer sans me rendre compte? Quelles pensées ont poussé toutes seules? Quelles graines le vent a déposées? Quelles ronces ont pris racine? Ça va très vite. Et écoutez le Seigneur nous dire, il est temps de reprendre la bêche. Il est temps d'arracher ce qui blesse. Il est temps de planter ce qui est vrai. La graine de la vérité est donc la première parce qu'elle donne la direction. C'est elle qui détermine la récolte. Dans un instant, nous verrons que Paul ne s'arrête pas là. Il nous parle aussi du tri des graines, du discernement, de ce que nous laissons entrer, mais aussi de ce que nous refusons. Mais avant d'aller plus loin, retenons ceci. Le jardin de nos pensées n'est jamais neutre. Il pousse toujours quelque chose. Une pensée n'est jamais juste une pensée, c'est une graine. Et une graine finit toujours par pousser. Et Paul le dit ailleurs, d'une manière bien plus directe, Colossiens 1, 21, « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Nos pensées ne sont jamais de simples idées qui passent. Elles peuvent devenir un terrain fertile pour la vie ou un terrain fertile pour l'hostilité envers Dieu. La question n'est pas si nous semons, mais ce que nous semons. Et c'est là que commence la deuxième partie, apprendre à reconnaître les bonnes graines. Il y a un principe spirituel dans la parole, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu plantes des ronces, ne t'attends pas à récolter des roses. Même avec beaucoup de foi. Paul ne veut pas que nos pensées soient un terrain vague où le premier courant d'air dépose ce qu'il veut. Alors il nous donne une liste. Une liste qui ressemble à un étal de marché. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Et là on pourrait se dire, ah, voilà une liste morale. Une liste de choses à faire par nos propres forces. Mais ce n'est pas du tout ça. Paul n'est pas en train de nous donner un manuel de développement spirituel. Il n'est pas en train de nous dire « pensez positif, cultivez des bonnes vibes ». Il est en train de nous dire « regardez Christ et plantez ce qui lui ressemble ». Et ça change tout. Parce que ça veut dire que Philippiens 4:8 n'est pas une liste de qualités à atteindre, mais une liste de qualités déjà incarnées en Jésus. Une liste qui nous dit « fixez vos pensées sur lui ». Et laissez-le transformer votre jardin. Chaque graine de la liste est un reflet de Christ. Chaque mot est comme un rayon de lumière qui vient du même soleil, Jésus. Juste. Le juste a souffert pour les injustes. 1 Pierre 3. Jésus est la justice incarnée. Pur. Lui qui n'a point commis de péché. 1 Pierre 2. Jésus est la pureté parfaite. Aimable. Dieu a manifesté son amour envers nous. 1 Jean 4. Jésus est l'amour rendu visible. Honorable, noble. On a vu ça il y a quelques mois. Lui qui était en forme de Dieu et qui s'est abaissé. Philippiens 2. La noblesse véritable. Celle qui se fait servante. Autrement dit, Christ, ce n'est pas seulement la première graine. Il est le modèle de toutes les graines. Il est le jardin parfait. Et Paul nous dit, regardez-le, imitez-le et plantez ce qui lui ressemble. Le tri des graines est donc avant tout un acte christocentrique. Dans la parole, dans la parabole, pardon, le voisin dit au jardinier, je le répète, la question n'est pas si tu sèmes, mais ce que tu sèmes. Et Paul dit exactement la même chose. Mais il ajoute, et pour savoir quoi semer, regarde Christ. Parce que le tri des graines n'est pas basé sur nos goûts, nos émotions, nos préférences. C'est pas « j'aime bien cette pensée, elle me fait du bien » ou « celle-là me motive, je la garde ». Le tri des graines, c'est un tri christocentrique. Un tri qui demande, est-ce que cette pensée ressemble à Jésus? Est-ce qu'elle est conforme à l'évangile? Est-ce qu'elle pousse vers la vie? Dans le premier psaume, on peut lire que l'homme qui médite la parole est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce psaume est un manuel de jardinage spirituel aussi. Si tu te nourris de la parole, tu deviens un arbre solide. Si tu te nourris du vent, tu deviendras de la paille. Et Paul n'est pas en train de nous dire « pensez à des choses nobles ». Il dit « prenez en compte ce qui est vraiment noble ». C'est différent. Et ce qui est vraiment noble, c'est Jésus. C'est une question de connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. On peut étudier la Bible toute sa vie, connaître par cœur. Et à la fin, Jésus nous dira « je t'ai jamais connu ». L'union avec Christ est la clé. C'est par cette union qu'on peut discerner les graines. Calvin disait que toutes les bénédictions de Dieu sont hors de nous tant que nous ne sommes pas unis à Christ. Autrement dit, sans l'union avec Christ, Philippiens 4:8 devient un véritable fardeau. Avec l'union avec Jésus, Philippiens 4:8 est une véritable bouffée d'air. Paul dit ailleurs, vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, conformément à la vérité qui est en Jésus. Je le répète parce que c'est la clé. La vérité n'est pas un concept. La vérité est en Jésus et nous sommes en lui. Alors, le tri des graines n'est pas un tri que nous faisons seuls. C'est un tri que nous faisons avec lui, en lui et par lui. Comme si Jésus se tenait à côté de nous, dans le jardin, regardait les graines et disait « celle-là, tu la gardes. Celle-là, tu l'arraches. Celle-là, elle pique. Celle-là, elle porte du fruit. » Fixer nos pensées sur Jésus, c'est le geste qui transforme. Ça revient plusieurs fois dans la parole. Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis. L'auteur aux Hébreux nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus, Hébreux 12, et Paul encore, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Autrement dit, le tri des graines n'est pas un exercice de volonté, c'est un exercice de contemplation. On ne devient pas pur en pensant la pureté, on devient pur en regardant ce qui est pur. De Corinthiens 3. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La contemplation mène à la transformation. Le jardin change parce que le jardinier regarde le bon modèle. Et jardinier, pour ceux qui ont un jardin, ce n'est pas mon cas, c'est un job à plein temps, vous le savez. Le tri des graines est un acte quotidien. Dans la parabole que j'ai inventée, le jardinier distrait ne fait rien. Il laisse faire. Et le vent s'occupe du reste. Et ce tri ne doit pas être fait seulement quand on y pense ou quand on a du temps ou quand on a envie. C'est un rythme. C'est un geste quotidien. Chaque jour, nous ouvrons la porte de notre jardin intérieur. Chaque jour, nous voyons ce qui pousse. Chaque jour, nous demandons, Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi? Et qu'est-ce qui vient du vent? Et Christ, parce que c'est un voisin bienveillant, nous répond. Le tri des graines n'est pas basé sur nos forces, il est basé sur Jésus. Un tri qui commence par la vérité, parce que la vérité est une personne. Un tri qui continue avec les autres vertus parce qu'elles sont toutes incarnées en lui. Un tri rendu possible parce que l'union avec Jésus, parce que sans lui, vous connaissez la suite, nous ne pouvons rien faire. C'est un tri nourri par la contemplation, parce que nous devenons ce que nous contemplons. Et maintenant que nous avons trié les graines, il reste un geste essentiel, planter. Parce qu'un jardin ne change pas par admiration seul, mais par action. Et parce qu'un jardin, sans jardinier, ça s'appelle une jungle. 3, le geste de planter, pratiquer ce que nous avons appris. On a ouvert la porte du jardin, on a regardé ce qui pousse, on a trié les graines, discerné celles qui viennent du vent, celles qui viennent de Jésus. Et maintenant, il reste un geste. Un geste que tout jardinier connaît, planter. Paul le dit ainsi. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Voilà le geste. Voilà la bêche dans la main. Voilà le moment où on met enfin les mains dans la terre. Le jardin ne change pas par contemplation seule. Dans la parabole, le jardinier distrait finit par comprendre. Il réalise que son jardin n'est pas neutre. Il voit les ronces, il voit les orties, les plantes qui blessent les pieds de ses enfants. Et il comprend ce que le vent a semé à sa place. Mais la prise de conscience ne suffit pas. Si c'était arrêté là, rien n'aurait changé. Le jardin serait resté le même. Les ronces auraient continué à pousser, les orties auraient continué à piquer. C'est comme regarder un tuto sur YouTube sur comment avoir un potager magnifique, puis ensuite on va s'asseoir sur le canapé. Il faut un geste, un vrai. Un geste qui salit les mains. Un geste qui demande un peu d'effort. Un geste qui transforme, parce que la foi chrétienne n'est jamais passive. Paul ne nous dit pas « ce que vous avez appris, méditez-le ». Il nous dit « pratiquez-le ». Parce que la foi chrétienne n'est jamais une simple accumulation d'informations. Nous ne sommes pas une bibliothèque de doctrine. C'est une vie, une marche, un jardinage quotidien. La foi véritable est une foi vivante, une foi active, qui porte du fruit. Calvin, encore, vous allez deviner quel est mon livre de chevet, disait « La foi seule justifie, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une vie transformée. » Autrement dit, la grâce ne nous laisse pas immobiles. Elle nous met en mouvement. Et ce qui est frappant dans ce verset, c'est que Paul ne dit pas seulement « faites » ce que je vous enseignais, il dit « faites ce que vous avez vu en moi ». Aux Corinthiens, il avait dit exactement la même chose. 1 Corinthiens 4,16 « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs ». Je vous invite à lire ce chapitre. Avant de dire ça, Paul avait déroulé une liste impressionnante et franchement pas très attirante. Et pourtant il leur dit « faites comme moi, soyez comme moi ». Il avait décrit les apôtres, sa vie donc, comme une vie marquée par l'humiliation, la faiblesse, la souffrance, le mépris. Il dit qu'ils sont traités comme des fous, comme des faibles, comme les rebuts du monde. Et il leur dit « faites comme moi, soyez comme moi ». Jardinier, c'est aussi aimer se salir les mains. Paul n'est pas un bureaucrate, c'est un jardinier. Et il nous dit « regardez mon jardin, regardez comment je plante, regardez comment je marche avec Christ, et faites pareil ». Il n'est pas en train de se vanter. Il est juste en train de dire « l'évangile que je vous annonce, je le vis. Je le plante, je le pratique. Imitez-moi comme j'imite Christ. » Parce que la vie chrétienne se transmet autant par imitation que par instruction. Les Philippiens avaient vu Paul souffrir. Il avait vu prier. Il avait vu aimer. Il avait vu pardonner. Il avait vu se réjouir même dans les chaînes. On avait vu ça ensemble. Il avait vu planter des graines dans les pires circonstances. Et il leur dit, vous avez vu comment je jardine, maintenant prenez la bêche, et c'est à vous de jouer. Je dois avouer que j'admire la persévérance des agriculteurs, parce qu'un jardin ne se cultive jamais une fois pour toutes. On ne plante pas une graine, puis voilà, on laisse faire. On plante, on arrose, on désherbe, et on recommence. La vie chrétienne, c'est pareil. Ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous le répétons jour après jour, pensée après pensée, graine après graine. Et parfois on se dit, j'ai déjà planté ça, j'ai déjà travaillé ce terrain, j'ai déjà arraché cette ronce. Oui, mais le vent revient, le monde revient, nos habitudes, nos peurs reviennent. Alors nous, on revient aussi, avec Christ. Avec la bêche, avec la vérité. Il y a aussi autre chose. Planter, c'est choisir une bonne terre. Jésus l'a dit dans une autre parabole. La semence est bonne, mais tout dépend du sol. Dépend de notre cœur, de notre esprit, de notre jardin intérieur. Planter, c'est donc aussi préparer la terre. C'est créer un espace où la parole peut s'enraciner. C'est refuser les distractions qui étouffent. C'est couper les mauvaises herbes qui prennent toute la place. C'est nourrir la terre avec la prière, la communion, la parole. Planter, c'est un geste spirituel. Un geste de dépendance, un geste d'humilité. Parce que planter, c'est s'appuyer sur Jésus. Et Paul ne dit pas pratiquez-le par vos propres forces. Il dit pratiquez-le parce que Christ vit en vous. Nous ne plantons jamais seuls. Nous plantons en union avec lui. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui transforme. C'est lui qui porte du fruit en nous. Nous, nous plantons. Vous connaissez, lui fait croître. Rappelez-vous des versets qui vous aident dans ce sens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Après la persévérance, voyons une autre facette du jardinage, l'espérance. Parce que planter, c'est entrer dans une promesse. Et c'est là que le verset 9 devient magnifique. Parce que Paul ne dit pas seulement pratiquez-le, il ajoute une promesse. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comme dans la parabole, le jardin devient un lieu où les enfants jouent sans crainte, un lieu de paix, un lieu où Dieu marche. Planter, ce n'est pas seulement obéir, c'est accueillir Dieu dans le jardin. Quatrième partie. On a donc ouvert la porte de notre jardin. On a regardé ce qui pousse. On a trié les graines. On a planté ce que nous avons appris. Et Paul, maintenant, termine avec une promesse. Il ne dit pas « vous aurez la paix ». Il ne dit pas « vous ressentirez un peu de sérénité ». Il dit « et votre jardin sera plus agréable ». Il dit quelque chose de bien plus grand que tout ça, bien plus personnel. Il dit « le Dieu de paix sera avec vous ». Pas seulement un sentiment, une présence. Pas seulement un résultat, une communion. C'est comme si Paul disait, si vous jardinez avec Christ, Christ jardine avec vous. Et si vous plantez ce qui est vrai, le Dieu de paix vient habiter votre jardin. Si vous pratiquez ce que vous avez appris, Dieu lui-même marche dans votre vie. On revient un coup à la parabole. Le jardin transformé devient un lieu de paix. Dans la parabole, quand le jardinier distrait se met enfin à jardiner, quand il arrache les ronces, quand il plante les bonnes graines, le jardin, ce n'est pas de la magie. Le jardin change. Il devient un lieu où les enfants jouent sans crainte, un lieu de repos, un lieu de beauté, un lieu de paix. Et Paul dit, c'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie. Quand vous plantez ce qui est conforme à Jésus, Dieu transforme votre jardin intérieur en un lieu de paix, un lieu où sa paix peut demeurer, un lieu où il aime marcher, un lieu où il se plaît à être. Parce que le Dieu de paix, ce n'est pas un concept, c'est une présence. Une réalité spirituelle qui envahit tout ce qu'elle touche. Et cette paix n'est pas seulement quelque chose que Dieu donne, c'est quelque chose que Dieu produit. Tout le monde connaît Galates 5. La paix est un fruit de l'esprit. Un fruit qui ne vient pas de nos efforts. Il ne vient pas non plus de notre discipline mentale. Il ne vient pas de notre capacité à rester calme. Mais de l'Esprit de Dieu. Qui travaille la terre de notre cœur. Autrement dit, la paix n'est pas un exercice, c'est une croissance. Pas un résultat de notre volonté, mais un fruit de sa présence. Quand l'esprit habite le jardin, la paix pousse toute seule. Comme une plante, une fleur que seul Dieu sait faire grandir. Il faut bien prendre en compte que Paul n'est pas naïf. Il écrit cette promesse depuis une prison. Il ne dit pas « si vous pensez aux bonnes choses, tout ira bien ». Il ne dit pas non plus, si vous plantez les bonnes graines, vous n'aurez plus de difficultés. Il dit, si vous plantez ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, Dieu sera avec vous. Et sa présence sera votre paix. même dans les chaînes, même dans les tempêtes. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de ronces autour de nous, c'est la présence du jardinier avec nous. La paix de Dieu, c'est une personne. Ce n'est pas un sentiment qui flotte. Un coup on l'a, un coup on l'a pas. C'est une personne. Ésaïe l'appelle le prince de paix. Paul dit, il est notre paix. Jésus lui-même dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il faut bien comprendre que quand Paul dit, le Dieu de paix sera avec vous, il dit, Christ sera avec vous. Jésus marchera dans votre jardin. Christ habitera vos pensées, il gardera votre cœur. Et ça, je vous mets au défi de trouver plus grand. C'est la plus grande promesse de la vie chrétienne. Dieu en nous. On a vu la dernière fois, dans le verset juste avant, Paul disait « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Le mot « garder », c'est un mot militaire. Il signifie monter la garde, protéger, entourer, défendre. Autrement dit, quand vous plantez ce qui est vrai, quand vous pratiquez ce que vous avez appris, quand vous marchez avec Christ, Dieu monte la garde dans votre jardin intérieur. Il veille, il protège, il entoure, il garde. Comme une présence qui repousse les ronces. Et ce qui est magnifique, c'est que Paul ne dit pas « le Dieu de paix passera vous voir » ou « le Dieu de paix vous visitera de temps en temps » comme on va visiter Mémé. « Le Dieu de paix sera avec vous. » Voilà ce qu'il dit. C'est un verbe de présence continue. Une promesse durable. Une communion stable. Dieu ne vient pas dans votre jardin comme un voisin curieux qui passe jeter un coup d'œil ou prendre l'apéro. Il vient comme un ami qui s'installe, comme un seigneur qui règne. Et quand Dieu est dans le jardin, encore une fois, ce n'est pas de la magie, le jardin change. Il ne peut pas rester le même. La présence de Dieu fait pousser ce qui est bon. Elle assainit la terre, elle guérit les blessures, elle fait fleurir ce qui semblait mort. Parce que Dieu ne vient jamais les mains vides. Il vient avec sa paix, il vient avec sa joie, avec sa lumière, il vient avec sa vie. Quand nous choisissons nos graines, quand nous plantons ce que nous avons appris, quand nous marchons avec Christ, le Dieu de paix vient habiter notre jardin intérieur. Pas seulement sa paix, je le répète, mais lui. Pas seulement un sentiment, sa présence. Une véritable communion, ce n'est pas un moment. Et cette présence, la présence du Dieu de paix, qui transforme notre vie, qui garde notre cœur, qui apaise nos pensées, et qui fait de notre jardin un lieu où Dieu aime marcher. Et si ce matin, parce qu'on passe tous par des moments comme ça, vous dites, d'accord, mais là, mon jardin, c'est plutôt une friche. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Dieu n'a jamais été découragé par les grandes œuvres. C'est même là qu'il fait ses plus beaux travaux. Il est l'heure pour nous de refermer la porte du jardin. Pas pour l'abandonner, mais pour le laisser à celui qui y habite désormais. Nous avons marché avec Paul. Nous avons regardé notre propre terre intérieure. Et au fond, tout amène, tout converge vers une seule et même réalité. Dieu veut faire de notre esprit un lieu où il fait bon demeurer. Un lieu où la vérité trouve racine. Un lieu où les bonnes graines prennent de la force. Un lieu où la paix n'est pas un visiteur occasionnel, mais un résident permanent. Parce que le Dieu de paix ne se contente pas de nous donner des instructions. Il vient, il entre, il s'installe, il marche dans le jardin comme au premier jour de la création, non pas pour juger, mais pour nous accompagner. Et c'est peut-être cela la beauté du texte. Dieu ne nous demande pas de cultiver un jardin parfait. Il nous demande simplement de lui ouvrir la porte, de lui laisser la place, de lui confier la terre et de marcher avec lui une graine à la fois. Alors que chacun de nous, ce matin, puisse entendre cette invitation. Choisis tes graines. Plante ce qui ressemble à Jésus. Et laisse le Dieu de paix habiter ton jardin. Parce que là où il est, inexorablement, la vie pousse. La paix fleurit. Et le jardin devient enfin un lieu où on peut respirer. J'aimerais finir avec ce verset. Ésaïe 58, 11. L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà l'action de notre Dieu. Amen.